lui-même encore écrit une lettre pendant la nuit, et après l'avoir cachetée, il éteint sa bougie. Il ne laisse pas d'être surpris de ne voir Goutte, et il sait à peine comment cela est arrivé. Ménalque descend l'escalier du Louvre. Un autre le monte, à qui il dit « C'est vous que je cherche ». Il le prend par la main, le fait descendre avec lui, traverse plusieurs cours, entre dans les salles, en sort. Il va, revient sur ses pas, il regarde enfin celui qu'il traîne après soi depuis un quart d'heure. Il est étonné que ce soit lui. Il n'a rien à lui dire. Il lui quitte la main et tourne d'un autre côté. Souvent, il vous interroge, et il est déjà bien loin de vous quand vous songez à lui répondre. Ou bien, il vous demande en courant comment se porte votre père, et comme vous lui dites qu'il est fort mal, il vous crie qu'il en est bien aise. Il vous trouve quelque autre fois sur son chemin. Il est ravi de vous rencontrer. Il sort de chez vous pour vous entretenir d'une certaine chose. Il contemple votre main. « Vous avez là, dit-il, un beau rubis. Est-il balai ?» Il vous quitte et continue sa route. Voilà l'affaire importante dont il avait à vous parler. Se trouve-t-il en campagne? Il dit à quelqu'un qu'il le trouve heureux d'avoir pu se dérober à la cour pendant l'automne et d'avoir passé dans ses terres tout le temps de Fontainebleau. Il tient à d'autres discours. Puis revenant à celui-ci, « Vous avez eu, lui dit-il, de beaux jours à Fontainebleau. Vous y avez sans doute beaucoup chassé. » Il commence ensuite un conte qu'il oublie d'achever. Il rit en lui-même, il éclate d'une chose qui lui passe par l'esprit, il répond à sa pensée, il chante entre ses dents, il siffle, il se renverse dans une chaise, il pousse un cri plaintif, il bâille, il se croit seul. S'il se trouve à un repas, on voit le pain se multiplier insensiblement sur son assiette. Il est vrai que ses voisins en manquent, aussi bien que de couteaux et de fourchettes, dont il ne les laisse pas jouir longtemps. On a inventé aux tables une grande cuillère pour la commodité du service. Il la prend, la plonge dans le plat, l'emplit, l'apporte à sa bouche et il ne sort pas d'étonnement de voir répandu sur son linge et sur ses habits le potage qu'il vient d'avaler. Il oublie de boire pendant tout le dîner, ou s'il s'en souvient et qu'il trouve que l'on lui donne trop de vin, il en flaque plus de la moitié au visage de celui qui est à sa droite. Il boit le reste tranquillement et ne comprend pas pourquoi tout le monde éclate de rire de ce qu'il a jeté à terre ce qu'on lui a versé de trop. Il est un jour retenu au lit pour quelque incommodité. On lui rend visite. Il y a un cercle d'hommes et de femmes dans la ruelle qui l'entretiennent, et en leur présence, il soulève sa couverture et crache dans ses draps. On le mène au Chartreux. On lui fait voir un cloître orné d'ouvrages, tous de la main d'un excellent peintre. Le religieux, qui les lui explique, parle de Saint Bruno, du chanoine et de son aventure. En fait, une longue histoire, et la montre dans l'un de ses tableaux. Ménalque, qui pendant la narration est hors du cloître et bien loin au-delà, y revient enfin et demande au père si c'est le chanoine ou Saint Bruno qui est damné. Il se trouve par hasard avec une jeune veuve. Il lui parle de son défunt mari, lui demande comment il est mort. Cette femme, à qui ce discours renouvelle ses douleurs, pleure, sanglote, et ne laisse pas de reprendre tous les détails de la maladie de son époux, qu'elle conduit depuis la veille de sa fièvre, qu'il se portait bien, jusqu'à l'agonie. « Madame, lui demande Ménalque, qui l'avait apparemment écouté avec attention, n'aviez-vous que celui-là »